Donc merci Margot d'être avec nous en call. On est contente de t'avoir juste quelques jours avant les vacances parce qu'en fait on te reçoit à l'occasion de la sortie de ton livre qui s'appelle Petit manuel de répartie écologique. C'est publié aux éditions Des Liens qui Libèrent, une très bonne maison d'édition d'ailleurs. Et en fait ce qui est pas mal dans ton livre, c'est qu'avant les vacances on va pouvoir un peu se muscler la répartie pour justement discuter avec tous les sceptiques et tous les gens qu'on peut rencontrer autour de nous et qui ont des discours parfois très critiques envers l'écologie, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Et peut-être avant de parler du fond de ton livre, ce serait pas mal de revenir sur la jeunesse. Comment tu as eu l'idée de faire ce livre?
Dans ma vie personnelle, professionnelle ou associative, je suis quand même souvent confrontée à des discours, alors certains climato-sceptiques, mais c'est relativement rare, mais surtout beaucoup de discours qui sont un peu dans le déni. Alors on pourra ensuite développer les différents types que j'ai pu identifier, mais parfois des gens qui me disent ah, bah, c'est pas si grave, enfin, qui relativise finalement la gravité du problème et qui relativise aussi soit ses causes ou ses conséquences. Et donc il y a eu un moment un peu clé où j'étais face à un proche qui m'a dit non mais en fait je crois pas à la finitude des ressources. Et je me suis dit bon bah là il va falloir se muscler. J'étais un peu abasourdie. Et en fait, ce livre, il venait vraiment d'un besoin personnel de m'outiller verbalement, de m'outiller intellectuellement pour avoir voilà, un peu de répartie. Alors peut-être parce que je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup de répartie, ou en tout cas c'est quelque chose qui me manquait personnellement. Et donc de manière un peu presque scolaire, bah voilà, j'ai listé les arguments et finalement j'avais toute la matière pour ensuite le développer en format livre.
Ouais, parce que souvent, en fond, on a un peu l'esprit d'escalier. C'est après coup qu'on se rend compte des arguments qu'on aurait pu sortir aux personnes qui sont sceptiques ou qui nous sortent parfois des choses complètement aberrantes, comme le président qui était là, qui aurait pu prédire, bah, ça fait des années qu'il y a des rapports, mais finalement, sur le moment, on n'a pas forcément le petit mot pour analyser la situation. Ce qui est intéressant dans ton ouvrage, c'est que tu proposes en fait des arguments en fonction de ton public. Du public visé, c'est-à-dire que tu fais une sorte d'analyse des profils types des sceptiques. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ces profils?
Oui, alors avant de les détailler, je tiens quand même à préciser que voilà, décortiquer en profil type, c'est pas un reflet de la réalité. C'était simplement pour structurer le livre, pour que ce soit un peu plus facile dans la lecture. Mais je voulais pas non plus mettre les gens dans des cases strictes, parce que voilà, parfois, à un moment de sa vie, on peut être dans une case et puis à un moment dans une autre case, en fonction aussi des gens qui nous entourent. Donc l'idée, voilà, c'était pas d'être de manière immuable dans une case. Alors, il y a six profils que j'ai pu identifier selon des traits un peu caractéristiques. Et donc, l'objectif, c'était de pouvoir déceler tel ou tel type d'interlocuteur pour peut-être piocher dans notre répartie des arguments qui font un peu plus mouche auprès de certains plutôt que d'autres. Alors, je vais te les dire dans l'ordre. Le premier, c'est les nouveaux sceptiques. Donc je les ai appelés les nouveaux sceptiques et pas les climato-sceptiques parce que finalement les climato-sceptiques sont assez rares, enfin on en croise de moins en moins. Par contre, on a des gens qui remettent en doute, qui questionnent quand même la véracité des crises écologiques. Donc c'est pour ça que je les ai appelés plutôt les nouveaux sceptiques de manière un peu plus globale. Ensuite, on a les immobilistes qui vont te dire bah ça sert à rien, je suis seule à agir. Donc voilà, des personnes qui sont très défaitistes. Et on peut faire partie de cette catégorie, hein. Parfois, quand on n'a pas le moral, et ben on est un peu dans cette catégorie. Ensuite, on a les économico-anxieux. Donc ça, j'ai pris le pli inverse des éco-anxieux. Donc ces personnes qui angoissent face aux crises écologiques. Et là, les économico-anxieux, c'est ceux qui angoissent face à l'augmentation de la dette, face à la chute du PIB, etc. Et qui vont opposer ce type d'arguments économiques aux arguments écologiques. Alors qu'en fait, moi, ce que je détaille dans le livre, c'est que les deux peuvent aller de pair. Ensuite, on a les optimistes candides. Donc, c'est des personnes un peu naïves qui vont te dire, par exemple, franchement, on est sur la bonne voie, on a beaucoup décarboné. Donc, ça parle beaucoup de décarbonation. Mais en fait, c'est oublier parfois que les crises écologiques, ça va au-delà des simples émissions carbone, qu'on a des problématiques de raréfaction des ressources, de biodiversité. Donc, voilà, c'est beaucoup plus large. Et puis, enfin, on a les dissonants cognitifs. Et donc, ce que je dis, c'est que c'est un peu toi, c'est un peu moi, c'est un peu tous. La dissonance cognitive, c'est le fait d'agir pas exactement en adéquation avec ses valeurs ou son système de pensée. C'est par exemple, je sais très bien que c'est pas bien de prendre l'avion, mais je le prends quand même toutes les vacances. Et après, on a différents types de dissonances, hein. Il y a des grosses, grosses dissonances qui sont vraiment très problématiques. Et après, il y a des dissonances qui sont contraintes aussi par l'organisation sociétale, par la géographie. Par exemple, si je dois faire 25 km avant de trouver le premier supermarché, oui, en effet, je suis obligée de prendre ma voiture et je peux pas y aller à pied ou à vélo. Et puis, les technosolutionnistes, ce sont des personnes qui croient foncièrement que la technologie va résoudre tous nos maux écologiques et qu'on va pouvoir, par exemple, aspirer le CO2, déployer la voiture électrique à grande échelle, quitte à remplacer toutes les voitures thermiques. Donc pour moi, c'est un peu illusoire et pas pour moi d'ailleurs, hein. Je m'appuie beaucoup sur des textes scientifiques, évidemment.
Voire aller sur d'autres planètes. C'est un peu Elon Musk.
Voir aller piller les ressources de Mars ou s'y installer, alors qu'en fait, si on pouvait faire peut-être un sondage parmi les terriens qui veulent aller sur Mars, qui voudraient aller s'installer sur Mars, je pense qu'on serait pas très nombreux à vouloir quitter la Terre.
Ouais, ça c'est évident. Après, donc là, tu as fait ces profils de personnes qui sont un peu sceptiques de l'écologie ou qui ont des profils particuliers. Et après, tu poses des questions, en fait. Grosso modo, c'est, par exemple, je sais pas, les écolos, c'est des bobos. Et à chaque fois, il y a des réponses différentes en fonction des profils.
Oui, c'est ça. Alors j'ai répertorié une grosse trentaine de questions, de remarques, d'arguments qui reviennent souvent, d'arguments qu'on pourrait qualifier d'anti-écolo ou alors de sceptiques. Et l'idée, c'était d'y répondre de manière efficace, percutante, en 2-3 pages max, de manière à mettre en évidence certains arguments qui font mouche, certains chiffres clés qui sont assez faciles à réutiliser. Et donc parfois je réutilise même les mêmes arguments ou les mêmes chiffres d'une question ou d'un argument à l'autre pour pouvoir se les approprier finalement.
Après, les données sont les mêmes, c'est les façons de répondre en fonction des profils.
Exactement. Et j'ai voulu faire de ce livre quelque chose de très ludique, qui soit à la portée de tous, avec une petite touche d'humour aussi pour rythmer. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose de très grand public, hein. Il ne faut pas être climatologue pour lire ce livre.
Ouais, puis c'est aussi pour un peu déconstruire l'image des écolos un peu chiants et rabat-joie. Il y a un petit côté, tu donnes des arguments qui font mouche et qui sont marrants parfois.
Oui, et qui sont souvent de l'ordre du bon sens.
Alors peut-être pour revenir sur les questions, par exemple, quand on dit que la pollution, c'est les Chinois, quels sont les arguments qu'on pourrait donner?
Alors sur cette question qui d'ailleurs a été, enfin c'était une phrase qui a été beaucoup reprise en politique. Hein, je pense par exemple à Éric Zemmour qui dit finalement c'est que 1%, la France c'est 1% des émissions de gaz à effet de serre, donc que les Chinois commencent. Donc déjà on peut partir du fait que comparer la France à la Chine, c'est pas forcément la bonne échelle parce que en France on est quoi 60 70 millions de Français et puis en Chine ils sont plus d'un milliard, c'est presque un continent et donc c'est normal finalement que la Chine émette beaucoup plus que la France. D'autant plus qu'on a beaucoup délocalisé et ce notamment en Chine qui est devenue l'usine du monde et du coup on a aussi délocalisé non pas seulement nos usines mais aussi nos pollutions sur le continent asiatique. Ensuite, au-delà de comparer des chiffres bruts comme ça, 1% ou tant de mégatonnes de CO2, moi je préfère partir de l'empreinte carbone des individus. Je trouve que c'est beaucoup plus parlant. En France, on a une empreinte carbone, c'est-à-dire l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre qui sont dues à notre mode de vie, qui est grosso modo de 10 tonnes de CO2 par Français. Ça, c'est une moyenne évidemment qui cache d'énormes disparités. Mais en Chine, à l'inverse, ils ont une empreinte carbone par habitant, par Chinois, de 6 tonnes de CO2. Donc on voit finalement qu'à l'échelle individuelle, quand on rapporte le tout à l'échelle, enfin par tête, les Français émettent beaucoup plus de CO2 que les Chinois. Et ça, on peut aussi le comparer au-delà de la Chine et de la France. Aux États-Unis, c'est environ 16 tonnes de CO2 par individu. Au Qatar, alors les Qataris, c'est vraiment les champions. Alors, je ne sais plus exactement, faudrait retrouver dans le livre, j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que c'est de l'ordre de 40 tonnes de CO2. Et puis à l'inverse, eh ben, un Kenyan, c'est même pas une tonne de CO2, pareil pour les Indiens. Donc c'est pas mal de remettre à chaque fois des ordres de grandeur sur ce type d'argument. Et puis rappeler que la France et plus largement les pays occidentaux ont une responsabilité historique dans le changement climatique et que finalement on a été les premiers à bénéficier de la révolution industrielle, mais qu'aujourd'hui c'est aussi notre responsabilité de diminuer, nous en priorité qui avons le mode de vie le plus élevé, de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre pour permettre à d'autres continents de pouvoir eux se développer entre guillemets, même si j'aime pas ce terme. Comme on a pu le faire en Occident.
Dans les gens qui ont des doutes sur l'écologie, il y a toujours les personnes qui sont là, les petits gestes, ça sert à rien, c'est plutôt les grosses industries. Et là, c'est toujours quelque chose qui n'est pas forcément évident non plus à trouver des arguments pour.
Oui, et puis cet argument, on peut vraiment le comprendre. On se dit, je tire pas la chasse une fois sur deux, mais en fait, il y a Total qui ouvre des nouveaux puits de carbone en Ouganda. Donc, c'est une vraie question. Mais en même temps, moi, je veux pas décrédibiliser les petits gestes parce que moi, je suis venue à l'écologie et comme beaucoup de gens, d'ailleurs, par les petits gestes, par le zéro déchet, par exemple, le vrac, etc. Et finalement, les petits gestes, ça permet d'ouvrir une porte pour se rendre compte que, en fait, la question, elle est transversale, elle est systémique et qu'en fait, ça passera que par un changement de système, des véritables politiques publiques. Donc, d'un côté, en effet, les petits gestes, ils nous sauveront pas, clairement. Et il y a une étude qui s'appelle Faire sa part, sur laquelle je m'appuie beaucoup, qui a été réalisée par le Shift Project, qui est un think tank, et qui montre que, grosso modo, pour atteindre l'objectif de l'accord de Paris, les petits gestes individuels représentent 25% de cet effort collectif. Alors quand on dit geste individuel, c'est pas juste faire pipi sous la douche et tirer la chasse d'eau une fois sur deux. C'est des vrais gestes individuels, c'est-à-dire réduire drastiquement sa consommation de viande, arrêter, voire réduire beaucoup l'avion. C'est des gestes qui impliquent vraiment et là-dessus, les ordres de grandeur sont vraiment importants parce que on peut se mettre au zéro déchet, c'est très bien, c'est important notamment pour la biodiversité, pour éviter que nos plastiques finissent dans la mer. Mais si à côté on part tous les 3 jours à Dubaï, bon, je caricature, finalement ça sert pas à grand chose d'être zéro déchet. Et donc ça c'est 25% et les 75%. Restants sont de l'ordre systémique, c'est-à-dire que ce sont les grandes entreprises et l'État qui doivent bouger, parce que quand, par exemple, l'État, la puissance publique, met en place des politiques publiques, par exemple d'aménagement du territoire, sur les pistes cyclables, ça c'est un exemple un peu typique, quand on met en place des pistes cyclables, on va décupler le nombre de personnes qui font du vélo. Les entreprises et l'État jouent vraiment comme autant de leviers supplémentaires pour permettre aux individus de réduire leur dissonance cognitive finalement et d'adopter des modes de vie qui sont plus vertueux.
Quand tu parles là de politique publique, Macron, un de ses arguments anti-écolo, c'est de dire on ne va pas retourner à vivre, on ne va pas installer un modèle Amish. Et ça, c'est toujours la chose qui est assez étonnante puisque l'idée des écologistes et de l'écologie, ce n'est pas de retourner au modèle Amish, quoi. C'est vraiment un contre-argument qui fait.
Oui, on entend le modèle Amish. En fait, c'est une question de progrès. En fait, qu'est-ce que le progrès et vers quoi voulons-nous aller collectivement? Moi, je pense que le progrès, c'est pas une fin. Enfin, le progrès technologique, c'est pas une fin en soi. Il faut toujours se poser la question de l'intérêt de développer une nouvelle technologie. Et en effet, sur certaines choses, je pense qu'un retour en arrière est nécessaire. On parlait de la pollution plastique. Clairement, nos grands-parents n'avaient pas des fruits et légumes sous plastique. Il n'y avait pas autant de suremballage. Là-dessus. Oui, c'est un retour en arrière, mais c'est un retour en arrière positif. Et donc, c'est important de se demander, est-ce que ce retour en arrière, il est positif ou pas? Et bah, y a d'autres exemples, hein, sur la médecine. Oui, c'est important de faire des progrès ce secteur-là de la médecine, parce que ça va vers une élévation de notre espérance de vie. Mais par contre, bah, je prends dans le livre l'exemple des frigos connectés. Oui, c'est un progrès technologique, mais est-ce que c'est un progrès pour l'humanité? Franchement, je ne suis pas sûre. Donc, il y a ce que Philippe Biewix appelle un techno-discernement qu'il faudrait adopter pour vraiment se poser la question de l'utilité sociétale, de l'utilité humaine versus le coût environnemental que cette technologie ou que cette chose implique.
Oui, on a ça aussi avec les gourdes connectées qui sont complètement aberrantes, puisqu'en fait, une gourde, bon bah, tu vois combien il y a d'eau dans la gourde, quoi.
Ah, je connais pas, c'est quoi ça, les gourdes connectées?
Ah, ça te dit là, le pourcentage d'eau que tu as bu et ce qui te reste à boire dans la journée.
Ah ouais,
mais bon,
ouais.
C'est quand même crucial, et c'est quelque chose que tu es obligé, bah, c'est connecté à ta montre, tu es obligé de la brancher pour avoir les statistiques. C'est dans les aberrations de la technologie moderne. Après, là, il y a tout un domaine de politique publique. Ce qui est compliqué parfois, c'est d'avoir les arguments qui ne soient pas juste individuels, en fait, d'avoir des choses qui sont plus globaux et plus collectives, en fait. Quand on parle d'argumentaire et de critique pour répondre aux gens qui sont critiques des écolos.
Bah oui, bien sûr, on peut pas s'arrêter aux gestes individuels. À un moment, il faut un passage à l'échelle. Il faut aussi un passage à l'échelle pour que cette transition écologique, elle ne repose pas déjà que sur l'individu, parce que bon, c'est une grosse charge, mais qu'elle ne repose pas uniquement sur les personnes les plus aisées. Parce que on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un certain biais qui vient d'une certaine forme d'écologie, hein, justement l'écologie centrée sur les petits gestes, qui sont pas à la portée de tous. Acheter en vrac, faire du vélo, en fait, quand on habite en milieu rural, c'est pas forcément possible. Acheter bio, bah, ça coûte aussi plus cher qu'acheter en agriculture conventionnelle. Enfin voilà, il y a plein de petites choses qui renvoient à quand même une écologie de riche. Et c'est là que la puissance publique a tout son rôle à jouer pour accompagner en priorité les publics les plus précaires dans cette transition. Bah, voilà, on peut trouver l'exemple du leasing pour les voitures électriques. Hein, on demande aux Français de changer de voiture, de passer du thermique vers l'électrique, mais l'électrique, ça coûte quand même beaucoup plus cher. Il y en a pas beaucoup en voiture d'occasion. Et du coup, là, bah, il faut un coup de pouce de l'État pour permettre aux plus précaires, qui sont en plus les plus impactés, hein, par les crises écologiques, par le changement climatique et surtout les pics de température, par exemple. Et donc c'est en priorité ces publics-là qu'il faut accompagner, parce qu'ils sont les moins outillés pour y faire face.
Est-ce que y a un argument massue face à toutes ces réparties écologiques qu'on peut avoir face à des climato-sceptiques, face à des gens qui sont très critiques envers l'écologie, ou qui sont même qui ne se rendent pas compte de la situation?
Il y a un argument d'ordre économique que j'aime bien. Parce que quand on nous dit, mais en fait ça va coûter trop cher, vous vous rendez pas compte de la dette, ou ben en fait moi j'aime bien dire que le coût de l'action il va être beaucoup plus faible que le coût de l'inaction. Et ça, je trouve que c'est quand même un argument assez imparable, c'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. En soi, on investit aujourd'hui, on anticipe, on planifie. Soit ça va nous tomber dessus et les conséquences humaines et en termes de biodiversité, elles vont être désastreuses. Donc il y a cet argument là et puis l'argument pareil d'ordre économique qui est lui lié aux assurances, c'est-à-dire que si on n'anticipe pas, si on s'adapte pas aujourd'hui, les assurances ne vont plus perdurer, et les assurances vont devenir un produit de luxe. Et c'est ce que le PDG d'AXA explique, c'est que un monde à plus 4 degrés, donc par rapport au niveau pré-industriel, il n'est pas assurable. Donc ça fait quand même un petit peu flipper. Et il y a, par exemple, il y a des collectivités qui d'ores et déjà n'ont pas pu s'assurer là en 2024. Et c'est le cas de la ville des Sables d'Olonne qui, pour les catastrophes d'ordre écologique, n'a pas pu trouver d'assurance. Donc la collectivité doit s'assurer elle-même. ça pose quand même des grosses questions d'inégalité aussi, parce que ça veut dire que seulement les plus riches vont pouvoir s'assurer plus tard. Et donc si je suis un public précaire à côté d'un fleuve qui déborde, ou à côté voilà d'une côte qui se fait submerger par les eaux, eh bien je n'ai plus rien. Je trouve que c'est quand même un argument assez intéressant.
Et puis même là, on peut le voir d'une façon un peu différente, mais face aux élections, aux prochaines élections avec le Rassemblement national qui est très fort, toutes les personnes qui sont des victimes du réchauffement climatique dans des pays qui sont plus particulièrement touchés, forcément, et à un moment donné, ils vont vouloir aller ailleurs, et le ailleurs, c'est souvent dans des pays plus tempérés comme les nôtres. Donc
Bien
rien
sûr.
que pour lutter d'une certaine façon. Contre, ou en tout cas pour que les personnes arrivent à vivre mieux dans leur pays, lutter d'une manière mondiale sur le réchauffement climatique, c'est quand même un argument important pour tout le monde.
Bien sûr, bah oui, c'est une question éminemment mondiale, parce que là on parlait du national, mais en effet, les publics les plus touchés sont bah, les populations dans le monde qui sont les plus pauvres, qui ont le moins bénéficié de la croissance économique due à la révolution industrielle. Donc il y a une vraie inégalité de fond, et c'est là aussi une responsabilité bah, des pays dits riches, des pays industriels, d'accompagner cette transition et d'apporter des fonds aux pays les plus enfin, les plus à risque, sachant que ce sont des pays souvent les plus surendettés. Donc il y a une vraie question de financement pour accompagner cette transition des pays les plus pauvres.
En tout cas, ton petit livre est quand même très intéressant et donne plein d'arguments pour démontrer, pour déconstruire les idées reçues. Puis ça donne surtout un peu de l'outil et de l'outillage pour arriver à contrer toutes les personnes sceptiques sur l'écologie. Et ce guide des réparties, des petits manuels de réparties écologiques. Est-ce que tu as eu des retours de gens qui ont utilisé tes réparties?
Alors j'ai une amie qui m'a dit que ça l'avait bien aidé un repas de famille, voilà, qu'elle avait sorti 2-3 chiffres et qu'elle en était plutôt fière, donc ça m'a fait très plaisir.
Ouais, je crois que c'est vraiment à lire avant les vacances pour les repas de famille et les dîners ou les repas, les fêtes de fin de saison dans les bureaux et dans les cantines. Je pense que c'est un bon outil pour argumenter tous et toutes et avoir à chaque fois le bon mot avec le bon chiffre aussi pour trouver l'argument massif.
Oui, bah j'espère que ça pourra servir à de nombreuses personnes. Et oui, bah en fait, je pense qu'il y a des personnes qui sont très attentives aux chiffres, ça va les faire bouger, et d'autres, les chiffres, ça leur passe totalement au-dessus. Donc j'ai essayé aussi d'apporter bah, des propositions d'alternatives au modèle actuel pour peut-être faire rêver certains, ou se dire que voilà, un autre monde est possible. Et puis il y a aussi certains arguments d'ordre plus émotionnel. Alors, je les ai pas forcément beaucoup exploités, enfin quelques fois, mais je pense à une personne qui est passionnée par voilà la nature, ou voilà une thématique précise, je sais pas, la montagne, mais qui serait pas forcément un écolo, enfin qui se qualifierait pas d'écolo dans l'âme. Bah, je pense qu'il y a un truc d'émerveillement aussi, des beaux paysages, de l'ordre du ressenti en fait, qui peut être bah, l'argument parfait, sans forcément mettre des mots dessus.
Oui, tout à fait, t'as tout à fait raison. Je vais rappeler le nom de ton livre, donc Petit manuel de répartie écologique, c'est aux éditions Les Liens qui Libèrent. Est-ce que tu continues à travailler sur ces sujets ou sur l'écologie?
Oui, alors moi, à titre professionnel, je suis attachée territoriale dans le secteur de la transition écologique, donc je travaille sur ces questions au niveau local, et donc dans ce cadre-là, eh ben, j'ai affaire à beaucoup de gens, que ce soit des collègues, voilà, des citoyens bah, qui peuvent m'apporter ce genre d'arguments qu'il faut parfois contrer, accompagner, et puis c'est aussi des personnes qui me nourrissent beaucoup, avec qui je suis souvent en phase aussi. Donc oui, évidemment, je continue le travail.
En tout cas, merci pour tout. Et puis c'est vrai que c'est un bon ouvrage à lire avant les vacances pour s'outiller et pour répondre à tous les sceptiques des questions écologiques.
Merci à toi pour l'invitation.